pays là.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du 5 mai 2015 à la une ce soir.
Burundi, la Cour constitutionnelle a validé ce mardi la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel.
Mali, Bamako reste confiant à la signature d'un accord de paix le 15 mai alors que des attaques persistent dans le nord.
Ici aux États-Unis, le président Obama annonce une nouvelle phase de son programme en faveur des couches défavorisées.
Le groupe État islamique revendique sa première attaque sur le sol américain, celle ayant fait 3 morts dimanche au Texas.
Nous parlerons aussi de la visite historique du secrétaire d'État John Kerry en Somalie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
La Cour constitutionnelle du Burundi a validé ce mardi la candidature du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat présidentiel. Cette candidature, objet de controverse et la cause de remous qui secoue le pays. Félix Yepassi-Zembrou.
Le renouvellement, une seule et dernière fois de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour 5 ans, n'est pas contraire à la constitution du Burundi, dit l'arrêt signé par 6 juges sur 7. Le vice-président de la Cour a, lui, refusé de signer et fuit le pays, dénonçant des pressions sur la Cour pour qu'elle valide la candidature. Pierre Nkurunziza a déjà été élu 2 fois, en 2005, après les accords d'Arusha par le Parlement, et en 2010, au suffrage universel direct. Le 25 avril dernier, son parti, le CNDD-FDD, l'a désigné candidat à la présidentielle du 26 juin. Cette désignation a déclenché une série de manifestations d'opposants à un troisième mandat qu'ils jugent inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui avaient mis fin à la guerre civile de 1993 à 2006. Par ailleurs, le gouvernement burundais s'est dit prêt aujourd'hui à libérer les manifestants arrêtés et rouvrir les radios fermées depuis le début de la contestation. Les émeutes ont forcé au moins 24 000 Burundais à fuir vers le Rwanda voisin.
Le ministre malien de la Réconciliation nationale a affirmé à Alger que la transgression du cessez-le-feu dans son pays ne devrait pas avoir d'influence sur la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et les rebelles du nord du Mali, prévu le 15 mai. Idriss Fall.
La transgression du cessez-le-feu et les violences à Menaka et Léré ne devraient pas influer sur le processus de paix, a déclaré Ould Sidi Mohamed Zahabi en visite à Alger. Selon lui, la solution définitive à cette situation consistant en l'accord de paix et de réconciliation nationale dont la signature est programmée pour le 15 mai prochain à Bamako. La rébellion avait donné son accord pour paraffer le document, mais a estimé avoir été attaquée à Menaka le 27 avril par les Gacha, une milice proche de Bamako. Depuis, les affrontements meurtriers ont eu lieu à Léré. 2 membres de la garde nationale ont été abattus à Gundam et aujourd'hui, les rebelles de la CMA ont attaqué la ville de Teninkou dans la région de Mopti. La mission de l'ONU au Mali exhorte tous les protagonistes à cesser les hostilités et à évacuer les positions nouvellement occupées.
République centrafricaine, les chefs de 8 groupes armés centrafricains s'engagent à relâcher plusieurs milliers d'enfants soldats. Dans un accord signé en marge du forum de Bangui, ils promettent aussi de mettre fin au recrutement d'enfants. D'après l'AFP, plusieurs factions de l'ex-rébellion Séléka et les milices anti-Balaka figurent parmi les signataires.
Côte d'Ivoire, l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 démarrera en juillet. C'est ce qu'annonce la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, citée par l'AFP. Les dernières victimes souhaitant être indemnisées sont donc appelées à venir se faire recenser du 11 mai au 11 juin.
République démocratique du Congo, le militant congolais Fred Boma du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, a été transféré mardi, aujourd'hui donc, à la prison centrale de Kinshasa. Il n'a pas été inculpé, a déclaré à l'AFP maître Sylvain Loumou, son avocat. Il a été transféré sans avoir pu parler à un magistrat. Il n'a pas été auditionné au parquet et il ne sait pas de quoi il est inculpé, ni quelle va être la suite de ce dossier, a précisé à l'AFP une source diplomatique.
Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, s'est rendu en Somalie. C'est une visite historique, car aucun chef de la diplomatie américaine n'avait jamais visité ce pays. M. Kerry a rencontré à Mogadiscio le président Hassan Sheikh Mohamed et a plaidé pour le bon déroulement des législatives en 2016. Bagassi Koura.
John Kerry a été accueilli peu avant midi par le président Hassan Sheikh Mohamed, le premier ministre et d'autres responsables somaliens. C'est là que John Kerry est resté cantonné pour des raisons de sécurité. En plus du président, le secrétaire d'État s'est entretenu avec des responsables somaliens régionaux. Selon la porte-parole du département d'État, Mary Harf, John Kerry devait discuter des questions de coopération sécuritaire et des efforts de stabilisation du pays à l'approche des élections de 2016. La capitale somalienne est devenue beaucoup plus paisible ces dernières années, mais le gouvernement est régulièrement en proie à des attaques suicides du groupe Al-Shabaab. À l'aéroport, Kerry a exprimé l'espoir que la Somalie fera des progrès, souhaitant, je cite, « la prochaine fois que je viens ici, nous devons être en mesure de marcher au centre-ville ». Fin de citation. Hier, à Nairobi, au Kenya, Kerry a promis 45 millions de dollars supplémentaires au HCR pour prendre en charge les réfugiés somaliens.
Tragédie en Méditerranée. Près de 40 migrants se sont noyés dimanche, rapporte l'ONG Save the Children. Leur canot pneumatique se serait dégonflé ou aurait explosé alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes de l'Italie. On compte désormais plus de 1750 migrants morts en mer cette année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque de dimanche sur un centre de conférence près de Dallas, au Texas, où se tenait un concours de caricature du prophète Mohammed. Lionel Gaïma.
Le groupe extrémiste a fait l'annonce ce mardi sur la station de radio en disant, je cite, « Deux de soldats du califat ont mené l'attaque de dimanche dans la ville de Garland ». La police a identifié les assaillants comme étant Elton Simpson et Nadir Soufi. Les deux ont ouvert le feu sur le centre de conférence, blessant un garde de sécurité avant d'être abattu par des policiers. Les documents judiciaires montrent que Simpson était sous surveillance depuis 2006 et accusé en 2010 d'avoir menti à des agents du FBI à propos de sa volonté de rejoindre le djihad en Somalie. Lundi, des agents du FBI et de la police ont fouillé le domicile de deux hommes en Phoenix, dans l'Arizona. L'association Initiative américaine de défense de la liberté a parrainé l'événement, offrant un prix de 10 000 $ pour le vainqueur. En janvier dernier, deux hommes armés ont attaqué à Paris le magazine satirique français Charlie Hebdo, qui a présenté plusieurs caricatures du prophète Mahomet. L'attaque avait fait 12 morts dans la rédaction.
L'Union européenne se dit confiante en la capacité de la Grèce et de ses créanciers à maintenir le pays solvable dans la zone euro. Athènes a accéléré ses efforts diplomatiques en vue de prévenir une cessation de paiement. Les institutions internationales de financement exigent des réformes économiques et des mesures budgétaires avant de verser au gouvernement grec la dernière tranche de 7,7 milliards de dollars de son plan de sauvetage économique.
Le président français François Hollande a rappelé ce mardi en Arabie Saoudite, l'un des pays au monde où les exécutions capitales sont en forte augmentation, que son pays, la France, militait pour l'abolition de la peine de mort. L'Arabie Saoudite, rappelle l'AFP, est régulièrement critiquée par les organisations de défense des droits de l'homme pour les exécutions de condamnés à mort qui sont généralement décapités. Le nombre de ces exécutions est en forte augmentation. Il y en a eu, par exemple, 78 depuis le 1er janvier de cette année.
Un nouveau chef d'état-major général pour les forces armées américaines. Le président Barack Obama a annoncé ce mardi la nomination du commandant des marines, le général Joseph Dunford, pour succéder au général Martin Dempsey. Devenu officier des marines en 1977, Dunford serait le deuxième commandant de ce corps d'armée à occuper ce poste. Le premier était le général Peter Pace de 2005 à 2007.
La livraison d'aide continue au Népal, où certaines zones sont encore difficiles d'accès, plus d'une semaine après le violent séisme qui a secoué le pays. Le gouvernement a déclaré un total de plus de 7 500 morts et environ 14 500 blessés, soulignant que le bilan sera probablement beaucoup plus élevé quand les zones reculées seront accessibles. Les Nations Unies ont de leur côté fait état de 8 millions de sinistrés, soit plus d'un quart de la population du Népal. Lundi, l'UNICEF a annoncé l'arrivée de 40 tonnes d'aide pour prévenir toute maladie due à l'eau non potable.
coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
Un tribunal nigérien a ordonné l'extradition vers la Grande-Bretagne d'un ancien haut fonctionnaire du ministère des Finances, accusé d'avoir accepté des pots de vin en échange de contrats d'impression de billets de banque. L'intéressé Emmanuel Okoyomon était le directeur de l'agence nigériane de frappe de pièces et d'impression de billets en 2006 quand une entreprise australienne, Securency International, a été choisie pour produire de petites coupures de Naira, la monnaie nigériane en billets de polymère. Les autorités britanniques ont réclamé l'extradition de M. Okoyomon après avoir eu la preuve que celui-ci avait effectué 6 virements provenant tous de Securency International sur son compte personnel en Grande-Bretagne et le soupçonnant d'avoir reçu cet argent en échange du contrat au Nigeria. Au moins 5 personnes ont été tuées et une dizaine sont portées disparues après l'éboulement d'une mine d'or artisanale dans le nord du Burkina Faso. L'accident s'est produit près de la ville de Djibo, a déclaré à l'AFP Saïdou Maïga, le ministre de l'Environnement qui s'est rendu sur les lieux. Et la zone euro va profiter cette année d'une embellie économique. Elle va engranger une croissance légèrement meilleure que prévue en évitant la déflation, essentiellement grâce à une série de facteurs externes, ce qui doit l'inciter à poursuivre les réformes selon Bruxelles. La croissance devrait atteindre 1,5% cette année contre 1,3% selon les précédentes prévisions publiées en février.
Voilà, c'était la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon.
Et ce thème annonce comme chaque soir la page sport. Bagassi Koura est en studio. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Parlons football africain pour commencer. Tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions.
Eh bien, dans le groupe B qui rassemblera donc les trois clubs algériens encore en course, à savoir l'AS Sétif, l'USM Alger, le MC El Ulma ainsi que El Merrekh du Soudan. On aura dans le groupe A le TP Mazembe, les Congolais donc qui devront se méfier du Maghreb Tétouan, tombeur d'Al Ali, de la puissance montante El Hilal et du petit poussé égyptien de Soumoura qui a sorti l'AS Léopard de Dolizy.
La CAF a procédé aujourd'hui au Caire au tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Bagassi, c'est avec l'entrée des équipes reversées de la Ligue des Champions.
Oui, on relève des chocs Al Ahly Club Africain et Raja Casablanca contre l'AS Sahel. L'AS Tunis de Tunisie jouera contre le Hearts of Oak du Ghana. L'AS Léopard de Dolizy dont on parlait tout à l'heure affronte les Nigérians du Warri Wolves. Le CS Faxien de Tunisie affronte les Mimosa de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa. Donc, le Stade Malien affronte l'AS Vita Club de la RDC, l'AS Kaloum de Guinée, éliminé donc de la Ligue des Champions, affronte Orlando Pirates d'Afrique du Sud et Sanga Balende de la RDC joue contre le Zamalek d'Égypte.
On reste dans le sport roi, mais on change de continent. Football européen présent avec les demi-finales allées de la Ligue des Champions.
Oui, la Juve de Turin et le Real Madrid, tenant du titre, entament les hostilités ce soir à Turin en Italie, suivi demain du choc Barça et à Barcelone, donc entre le Barça et le Bayern Munich. Du beau spectacle en perspective avec des clubs habitués de cette phase de la compétition en dehors de Turin, de retour après 12 ans d'absence. Alors, vous avez un pronostic là, Barça contre Bayern.
Je vais toujours avec les Espagnols.
On verra bien, parce que les Allemands, ils plaisantent pas depuis un certain nombre d'années. Hein.
Si comme Bagassi et moi, vous suivez les nouvelles, vous savez qu'il y a un rapprochement ces jours-ci entre Washington et la Havane. Alors Bagassi, ce réchauffement des relations se poursuit dans le domaine sportif.
Oui, en effet, une équipe cubaine de lutte arrivera le 21 mai à New York pour affronter les lutteurs américains en match d'exhibition à Times Square au programme La lutte libre et gréco-romaine. Hommes et dames, vous faites partie de l'équipe américaine ou pas?
Pas de réponse.
Il s'agit des lutteurs.
Regardez-moi et vous aurez la réponse. Bagassi, demi-finale. Ah ben pas demi-finale, oui, la suite des demi-finales. Conférence Ouest, NBA.
Oui, en basketball, hein, les Los Angeles Clippers, pourtant privés de leur vedette Chris Paul, se sont imposés à Houston 117-101. Qu'est-il advenu de San Antonio?
Là aussi, je ne veux pas en parler.
Ok. Les Chicago
je
Bulls.
Je préfère parler des Washington Wizards.
Ok. Les Chicago Bulls sont allés gagner chez les Cleveland Cavaliers de LeBron James, 99-92, avec 25 points de Derrick Rose.
Merci, Bagassi Koura.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour. Et est-ce qu'on commence avec le Burundi ?
C'est ce mardi dans l'avant-midi que l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu public. La délibération a été faite le 4 mai 2015 sur 6 pages. On note bien sûr que le président Pierre Nkurunziza a bel et bien le droit de se représenter à la présidentielle de 2015, c'est-à-dire au mois de juin 2015, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Apparemment, il y a un des juges qui s'est enfui.
Oui, dans le document qui a été distribué aux différents médias, on note que le vice-président était présent lors de la délibération, mais il est clair qu'il n'était pas dans la délibération. Parce qu'il avait déjà fui le pays, président de la Cour constitutionnelle, qui avait déjà fui vers le Rwanda, puis en disant qu'il avait fui pour des raisons de sécurité, parce qu'il avait reçu des intimidations, parce qu'opposé déjà à la troisième candidature de Pierre Nkurunziza. 6 juges sur 7 avec un greffier qui ont délibéré dans cette affaire d'interprétation de la Constitution.
Et qu'en est-il des manifestations à Bujumbura et dans le pays ?
Avant de parler peut-être des manifestations, il faut vous dire que les différents partis d'opposition, notamment la DC Kibili, les organisateurs de cette campagne ALT à la troisième candidature de Pierre Nkurunziza, ont vite réagi sur plusieurs médias ici au Burundi, disant que effectivement cet arrêt de la Cour constitutionnelle était nul. Est de nul effet.
Du coup, les manifestations ont continué alors.
Les manifestations ont continué pour cette deuxième journée après la trêve de samedi et dimanche. Et les manifestations étaient plus fortes qu'avant d'ailleurs, parce que après la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les manifestants étaient vraiment très, très déterminés et avaient plus de force et disaient que peu importe la décision, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, nous sommes déterminés, nous allons continuer à combattre pour le respect de la Constitution, le respect de l'accord d'Arusha. Voilà, c'est que dans plusieurs quartiers, il y a eu des blessés, il y a eu des personnes arrêtées, mais il faut signaler que la police s'est montrée de moins en moins violente, comme on l'avait observé ces derniers jours.
Une analyse de Léon Massengo de Radio Bonesha à Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au Mali, les rebelles de la Convention des mouvements de l'Azawad ont attaqué aujourd'hui la ville de Ténankou, dans la région de Mopti. La semaine dernière, ils avaient justifié leur attaque de Léré par la prise de Ménaka par des groupes armés proches de Bamako. Pourquoi y a-t-il poursuite des hostilités alors que la signature de l'accord de paix est programmée pour le 15 mai ? Idriss Fall a joint Al-Mouag Mohamed, porte-parole de la CMA.
C'est comme on l'a annoncé dans nos précédents communiqués, depuis l'attaque du 27 avril sur l'opposition à Ménaka par les milices pro-gouvernementales appuyées par l'armée malienne, nous avons demandé ce que nous considérons déjà, nous, CMA, comme étant une flagrante violation du cessez-le-feu en vigueur. Donc, nous avons demandé à toutes les parties engagées dans ce processus, la MINUSMA aussi bien que le gouvernement malien et ses milices, de se retirer de Ménaka et de regagner des positions d'avant. Sans quoi, nous continuerons à mener des opérations pour justement amoindrir les effets de ces violations de cessez-le-feu sur nos hommes et sur les populations de l'Azawad. Nous nécessiterons, comme nous l'avons dit, de mener ces opérations jusqu'à ce que tout le monde se mette dans la tête qu'il doit respecter le cessez-le-feu, qu'il doit regagner ses positions.
Qu'en est-il de l'accord d'Alger dont on a dit qu'il doit être signé le 15 mai à Bamako ?
Nous n'avons toujours paraphé l'accord déjà. Nous venons juste de signifier un jour avant l'attaque sur nos positions à Menaka par écrit au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, notre OK pour le paraphe du document. Paraphe qui sera suivi bien évidemment de quelques discussions pour éclaircir certains points qui nous paraissent flous dans les documents avant la signature. Juste après, les jours suivants, on nous attaque à Menaka. Du coup, dans ce contexte actuel, nous ne pouvons pas envisager le paraphe, bien que nous ne revenons pas sur notre décision de partir, tant que la situation sur le terrain ne se stabilise pas.
C'est-à-dire vous demandez que les Gatia se retirent de Menaka?
Nous demandons que les Gatia et l'armée malienne, parce que pour nous, ce n'est pas seulement Gatia qui est à Menaka. Nous demandons que les Gatia et les FAMA se retirent de Menaka, sans condition. C'est un préalable à toute discussion ou à toute éventualité de paraphe du document. Pour nous, les opérations que nous menons en ce moment ne sont nullement des opérations qui ont pour objectif de récupérer ou d'occuper de nouvelles positions, mais des opérations ciblées pour justement, comme je l'ai dit, apporter des réponses appropriées à toutes les violations de cessez-le-feu commises par Gatia et les FAMA dans la zone de Menaka et environ.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Je vous rappelle qu'on écoute Almouag Mohamed, porte-parole de la Convention des mouvements de l'Azawad dans le nord du Mali. Cap maintenant sur le Sénégal, où le président Macky Sall a décidé d'envoyer 2100 soldats sénégalais en Arabie Saoudite pour épauler Riyad dans son combat contre les rebelles au Yémen. Cette décision ne fait pas l'unanimité et a suscité un grand débat sur la toile. Idrissa Seloudia, vous avez interviewé deux personnalités sénégalaises dont les positions ont défrayé la chronique récemment. L'ancien général Mamadou Mansour Seck et je crois le journaliste Madiambal Diagne.
Oui, et pour commencer, M. Madiambal Diagne, président du groupe de presse Avenir Communication, il discute ici de son éditorial de soutien à la décision du président Sall.
Oui, en fait, le papier est intitulé « Une guerre lointaine mais si proche ». C'est dans le sens de montrer qu'en hésitant d'envoyer les troupes sénégalaises, non pas au Yémen, mais en Arabie Saoudite, parce que la décision du Sénégal est très précise, ils ont décidé d'envoyer 2000 soldats en sol saoudien pour servir de base arrière en cas d'incursion de forces hostiles sur le territoire saoudien. Et j'ai estimé que c'est renforcer l'alignement diplomatique du Sénégal dans la région. Parce que tout le monde sait que dans ce contentieux, il s'agit d'une guerre régionale qui oppose l'Iran à l'Arabie Saoudite et aux autres Émirats arabes du Golfe. Le Sénégal ne peut pas faire la sourde oreille devant un appel lancé par l'Arabie Saoudite parce qu'on sait que l'Iran a des visées sur le Yémen. Une fois le Yémen tombé dans l'escarcelle de l'Iran, ce seront les autres monarchies arabes du Golfe qui seront sous la menace qu'ils ont d'une déstabilisation. Et nous savons qu'ici au Sénégal, nous avons une mauvaise expérience avec l'Iran qui nous a fait un bébé dans le dos en armant Yahya Jammé qui avait dirigé ses armes là contre le Sénégal et ce qui avait justifié d'ailleurs que le Sénégal eut à geler ses relations diplomatiques avec l'Iran. Et donc, ne serait-ce que de ce point de vue stratégique, nous avons intérêt à conforter des régimes comme l'Arabie Saoudite au détriment d'un régime iranien.
Le journaliste sénégalais Madiambal Diagne, président du groupe de presse Avenir Communication. Pour sa part, l'ancien chef d'état-major général des armées et ex-ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, le général Mansour Seck, met en garde contre les risques inhérents à cette décision, dont les représailles de groupes terroristes. Il a donné en exemple la France et le Kenya pour leur implication respective au Mali et en Somalie. Il craint un vide sécuritaire dans un pays dont l'armée aux effectifs réduits, a déjà 4 contingents déployés en Guinée-Bissau, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Darfour, au Soudan, outre les gendarmes et policiers en RCA et à Haïti. Le général Seck a parlé des dangers posés par les cellules dormantes et des Sénégalais, El Sénégali, que l'on a signalés en Syrie et en Irak. Le général Seck trouve que le Sénégal doit surtout faire face aux menaces nouvelles de ce monde.
La France qui a servi Serval, n'est-ce pas, au Mali, d'une part, et d'autre part, le Kenya, qui, justement, il y a 150 étudiants qu'on a tués parce qu'on reprochait à ce pays, le Kenya, d'avoir envoyé des contingents en Somalie. Alors, nous, Sénégalais, on s'est quand même manifesté contre le terrorisme de plusieurs manières. D'abord, nous avons envoyé un contingent à Kidal, dans le nord du Mali, contre eux. On a assisté, notre président a assisté à la réunion à Paris l'année dernière contre le terrorisme. Ensuite, nos autorités ont décidé tous les ans d'abriter à Dakar une conférence pour la paix et la sécurité, surtout contre le terrorisme, et ainsi de suite. Alors, toutes ces initiatives qu'on a prises peuvent être considérées par les terroristes comme une marque d'animosité contre eux. Et encore une fois, ce sont des gens qui peuvent être dans des réseaux dormants, ils peuvent être dans nos banlieues, ils peuvent être dans des endroits. Et surtout, maintenant, nous avons même des Sénégalais, c'est-à-dire des Sénégaliens, des Sénégalos, des Sénégalais qui sont actuellement entre la Syrie, la Turquie, là où il y a le Daesh, etc., qui recrutent, etc. Donc, plus ou moins, ils sont parmi nous. Moi, je crois que ces raisons devraient faire qu'au contraire, en comptant en plus le défi, le conflit qu'on a en Casamance, nous devrions être très, très prudents, sans être affolés, et au contraire, donner plus de moyens à nos forces de sécurité.
Voilà, c'était le général Mansour Seck, ancien chef d'état-major général des armées du Sénégal et ex-ambassadeur du Sénégal aux États-Unis.
Ici, aux États-Unis, le président Barack Obama a annoncé une nouvelle phase de son initiative en faveur des communautés défavorisées. Il s'est rendu hier à New York pour lancer l'ONG My Brother's Keeper Alliance, l'alliance gardien de mon frère, qui apportera un appui financier au programme dans les domaines de l'éducation et de l'emploi pour les jeunes issus des minorités. Les précisions de Timothée Donongmaï.
Le nouveau programme est similaire à celui lancé en 2014 par le président Obama. Il s'agit, a dit le chef de l'exécutif, de tout faire pour garantir des chances égales à tous ceux qui sont désireux de travailler. L'initiative gouvernementale a mobilisé 500 millions de dollars à ce jour pour des subventions devant aider à éduquer les jeunes noirs et les latinos. L'annonce du président Obama intervient au moment où des communautés africaines-américaines manifestent contre ce qu'elles perçoivent comme étant un enracinement de la discrimination raciale aux États-Unis. Partout à travers le pays, dans certaines parties de New York, du New Jersey, de ma ville de Chicago, il y a des communautés qui ne disposent pas d'assez d'emplois, d'assez d'investissements, d'assez d'opportunités. Vous avez des communautés avec 30, 40 ou même 50 % de chômage. La plupart des Américains comprennent que le succès d'une nation dépend de la réussite de ses jeunes, a souligné le président Obama. Ils savent que si vous avez des Africains américains ou des Hispaniques ici à New York qui, au lieu d'aller en prison, vont à l'université, ceux-là deviendront des contribuables. Ils vont aider à construire nos communautés. Ils rendront nos collectivités plus sécurisées. Ils ne font pas partie du problème, ils font potentiellement partie de la solution si nous les traitons comme tels, a dit le chef de l'exécutif américain. L'alliance basée à New York offrira des stratégies mesurables pour aider à éliminer les lacunes raciales qui affectent l'économie et la société américaine, a déclaré de son côté David Williams, PDG de la firme Deloitte Financial Advisory Services.
We will focus on and champion strategic evidence-based interventions from community, private, public and social.
Nous allons nous concentrer sur des interventions stratégiques prouvées venant de la communauté, des secteurs privés et publics et de l'entrepreneuriat social, des partenariats qui s'attaquent globalement à ces lacunes dès le berceau jusqu'à une carrière. Notre idée simple est de mettre le rêve américain à la portée de tous, a fait savoir David Williams.
À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma, Morgane Guérillac et Chérubin Dorsil au micro.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voaafrique.com. Bonsoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM. Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wen Panga,
Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui,